Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Hier soir, sous une pluie battante, a donc été ouverte la 66e édition du Festival International du Film à Cannes. Une actualité qui a donné des idées à Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons parler cinéma aujourd'hui, dans Au cœur de l'histoire, en compagnie de deux grands spécialistes de la question. Faut-il présenter Alain Rioux, scénariste et réalisateur, pilier de l'émission Le Masque et la Plume, et chargé notamment des pages cinéma du Nouvel Observateur? Quant à Guillaume Évin, qui est historien de formation, il vient de faire paraître chez La Martinière un bel album intitulé « L'histoire fait son cinéma », un album consacré, c'est évident, aux plus grands films historiques.
Mais oui, des films historiques dont je vous devine vous-même grand amateur.
Eh bien oui et non, figurez-vous. Ah. Vous savez, dans bien des cas, le problème avec les cinéastes qui se piquent de faire de l'histoire, c'est qu'ils collectionnent les erreurs, les faux sens, les anachronismes. Je me rappelle jadis être littéralement tombé de mon fauteuil en découvrant dans un film de Miloš Forman qui s'appelait Valmont et qui était censé se passer à la fin du règne de Louis XV. Alors vous aviez un plan avec des carcans qui étaient tout droit sortis du haut Moyen-Âge et juste dans le plan suivant, une garniture de cheminée Napoléon III du plus bel effet. Ce genre de fantaisie fait aussi partie du cinéma historique. Alors jusqu'où? Eh bien c'est une des questions que je vais poser à nos invités.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Grands spectacles dramatiques ont toujours puisé avec délectation à la source historique. Et pour cause, nous qui chaque jour essayons de vous démontrer qu'en histoire, la réalité dépasse toujours la fiction, nous aurions mauvaise grâce à feindre l'étonnement. Vous voulez une belle histoire? Eh bien, feuilletez n'importe quel ouvrage historique et vous finirez par en trouver une à votre goût. Autrefois, on jouait sur les parvis des cathédrales de grandes pantomimes qu'on appelait des mystères, vous savez, et qui, lorsqu'ils n'étaient pas d'inspiration purement religieuse, empruntaient déjà largement aux chroniques du passé. Et puis est venu le théâtre. Ce nouvel art, évidemment, a fait son miel des grands épisodes de l'histoire. Ai-je besoin de vous rappeler, entre autres, les chefs-d'œuvre de Shakespeare, d'Antoine et Cléopâtre à Édouard III, de Jules César à Richard III, de Titus Andronicus à Henri V. Titus Andronicus, entre parenthèses, une pièce extrêmement sanglante. Un certain nombre des séries télé actuelles n'auraient rien à lui envier. Le théâtre français, de son côté, ne va cesser de se nourrir de l'histoire. Dois-je citer Corneille, Voltaire, Musset, Hugo, Rostand, Anouilh, etc. Par la suite, c'est l'opéra qui est venu puiser à ce réservoir inépuisable de grandes expériences humaines qu'est l'histoire. À mesure que s'imposait le nouveau genre, les sujets historiques s'y sont taillé la part du lion. Alors pour ne citer que quelques exemples, il y en aurait tellement. Rappelons peut-être la Clémence de Titus de Mozart, le Don Carlos de Verdi évidemment, le Boris Godounov de Moussorgski, etc. De nos jours, le genre dramatique dominant est la série télé. Et là encore, Rome, les Borgia, voire les Tudor, Boardwalk Empire, Band of Brothers, les Kennedy, tout ça devrait combler plus ou moins les attentes des amateurs d'histoire. Eh bien, entre l'opéra et la série télé, il y a eu, et naturellement il y a encore, le cinéma. Histoire et cinéma font excellent ménage, eux aussi. Et on n'en finirait pas d'évoquer tous les chefs-d'œuvre du 7e art dont l'action se situe dans un passé plus ou moins conforme à la réalité. Nous n'avons qu'une petite heure devant nous aujourd'hui. Alors pour opérer un tri efficace parmi tous les films historiques, je vous propose de ne retenir dans les mailles d'un filet plutôt serré que les films qui répondent à deux critères. D'abord, qu'ils aient pour sujet central un événement ou un personnage historique. Si vous voulez, Le Bossu ou Fanfan la Tulipe sont de belles façons d'appréhender respectivement la Régence et le règne de Louis XV. Mais nous allons préférer aujourd'hui des films dont les héros sont eux-mêmes les personnages historiques, comme le célèbre film Que la fête commence de Bertrand Tavernier, qui met en scène le régent lui-même, ou le Madame du Barry de Christian Jacques du Reste, là encore, mais où Louis XV n'est pas relégué aux utilités. L'autre critère, évidemment, ce sera celui de la qualité, voire du génie du cinéaste. Je vous concède que ce critère-là est très subjectif et c'est la raison pour laquelle je vais m'en remettre à l'avis de nos experts. Pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance, voici un extrait de la BO d'un film très ancien. C'est un film qui a été tourné pendant la Première Guerre mondiale, la BO du film de Griffith, Naissance d'une nation.
un extrait sur Europe 1 de la musique composée pour le film de D.W. Griffith, Naissance d'une nation. À tout de suite pour une plongée au cœur des grands films historiques.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, c'est même maintenant sur Europe 1 avec vous, Franck, et vos deux invités aujourd'hui. Guillaume Mévin, qui est historien de formation. Il a publié plusieurs ouvrages sur le cinéma, dont notamment « L'histoire fait son cinéma en son film » de la guerre du feu à des mineurs aux éditions de La Martinière. Et puis Alain Rioux, journaliste spécialisé dans le cinéma. Il contribue aux pages ciné du Nouvel Obs et de son supplément Téléobs depuis de nombreuses années.
Et comme toujours, nos auditeurs évidemment peuvent réagir sur le site internet d'Europe 1 ou via leur réseaux sociaux favoris. Et c'est pas comme ça qu'on dit d'ailleurs, c'est pas réseaux sociaux,
mais
c'est
réseaux sociaux.
Ben voilà, oui. Voyez, je suis presque à la page aujourd'hui. Josiane, en l'occurrence, nous dit que si Versailles m'était compté et Paris vous est compté de Guitry sont deux fresques historiques très divertissantes. Est-ce qu'on peut dire, Alain Rioux, que c'est du cinéma historique, le cinéma, les pochades fantaisistes de Sacha Guitry?
Ah oui, oui, franchement oui, parce que si l'histoire est embellie, elle est quand même là. Il n'y a pas une erreur historique chez Guitry, qui était un homme d'une culture historique considérable. Moi, je suis très pour ces films, parce que c'est une façon délicieuse de donner le goût de l'histoire aux gens. Et ça fait partie d'un plaisir qui m'est cher, qui est le charme, la culture charmeuse.
Ce que nous essayons de faire tous les jours sur cette antenne.
Exactement, c'est très proche d'ici, c'est très bien.
On essaie effectivement de... C'est une façon aussi d'entrer dans l'histoire. Hein. Il faut que la porte soit belle, si l'on veut que les gens entrent, si je puis dire. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait le genre de film que vous avez mis en avant, Guillaume Mévin. Vous nous avez plutôt régalé de tous les grands chefs-d'œuvre de la Cinémathèque.
Oui, alors bien sûr, même si la notion d'anthologie suppose toujours des laissés pour compte, donc on peut toujours après contester les choix. Mais c'est vrai que, par exemple, pour Guitry, bon, le choix a été douloureux. Je l'ai malheureusement écarté de la sélection. Peut-être justement cette légèreté qui sied mal à parfois à la majesté historique. Bon, on retrouve, c'est vrai, beaucoup de monuments, hein, je pense. Évidemment, Autant d'emporte le vent, La Grande Illusion,
voilà,
Barry Lyndon.
Alors, on va y venir à tous ces films, évidemment. On va les évoquer. Aujourd'hui, on va faire une sorte de catalogue. Je vais feuilleter votre magnifique album, tout simplement. Ce qu'il faut peut-être préciser en préambule, c'est l'ancienneté du thème historique dans le cinéma. Puisque dès les premiers films, on va aller emprunter aux plus belles pages de l'histoire un certain nombre de scénarios. Je pense à l'assassinat du duc de Guise, qui est un film célèbre, évidemment, mais ça n'est pas le seul. Hein.
Mais c'est vrai que histoire et cinéma ont souvent fait bon ménage. Pourquoi ? Parce que, au fond, le cinéma n'aime rien tant que raconter des histoires, de belles histoires, ce qui est même bigger than life. Et finalement, dans l'histoire avec un grand H, eh bien, il peut retrouver tout cet élan, finalement, ces figures majestueuses, ces épopées invraisemblables. Et donc, naturellement, l'histoire est devenue un matériau de premier ordre pour le cinéma. De surcroît, l'histoire du XXe siècle ayant été particulièrement riche, le cinéma qui était contemporain, eh bien, c'est nourri de ces événements. Donc voilà pourquoi le histoire et cinéma, c'est un couple durable.
Alors Alain Rioux, est-ce que finalement, parce que nous parlions tout à l'heure des pochades de Sacha Guitry, est-ce que le but d'un film historique, ça n'est pas d'abord d'être le plus vrai possible, le plus proche de ce qu'a pu être une réalité historique?
Oui, c'est-à-dire que... C'est une question de nuance. C'est-à-dire, le cinéma est quand même l'héritier de Shakespeare, quelque part. L'héritier de ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le drame porté à la scène. Et pour le cinéma, c'est mieux quand c'est vrai. C'est toujours mieux quand c'est vrai. Mais le cinéma bénéficie de ce que nous appelons, nous, dans les journalistes de cinéma qui aiment une certaine fantaisie, ce que nous appelons l'amendement John Ford. C'est une phrase célèbre. C'est dans L'homme qui tua Liberty Valance et dans lequel il est dit « Lorsque la légende est plus belle que l'histoire, que la réalité, on a le droit d'imprimer la légende.
Oui.
Et il me semble que c'est assez sage.
En fait, on peut dire qu'Alexandre Dumas, en matière de roman historique, disait un peu la même chose.
Hein. Il le disait un peu beaucoup.
Il disait qu'on avait le droit de violer l'histoire si c'était pour lui faire de beaux enfants.
Oui, oui. Il allait un petit peu loin quand même. On n'est pas obligé de tout croire.
En tout cas, le cinéma est allé puiser dans l'histoire un certain nombre de ses plus grandes réussites. Et alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre époque par époque, hein, plutôt que prendre les films du premier film au plus récent. On va prendre les grandes époques historiques et voir quels sont les chefs-d'œuvre qui les ont peut-être le mieux exprimés.
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film de Jean-Jacques Hano, sorti en 81, une musique de Philippe Sard, La guerre du feu. A tout de suite pour Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et je vous rappelle qu'aujourd'hui nous parlons cinéma.
Eh oui, alors cinéma avec différentes périodes bien entendu. On a entendu tout à l'heure la BO de La guerre du feu. Il y a relativement peu de films consacrés à la préhistoire et j'ai presque envie de dire à Alain Rioux qu'à chaque fois c'est un nanar en fait. C'est pas une période très facile à traiter. Enfin, si tant est qu'on puisse parler
feu, de... Faut être juste, non, il y a beaucoup de films comme, il y en a même un qui s'appelle Quand les femmes avaient une queue qui est vraiment la préhistoire du film historique. Mais La guerre du feu, c'est pas un nanar. C'est même film assez austère. C'est un film qui a une idée géniale qui est de faire sentir ce qui nous rapproche, ce qui nous lie avec la préhistoire simplement en montrant la Lune, qui est le seul spectacle que nous avons pu avoir avec nos aïeux. Mais à part ça, c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont souvent. On sait tellement peu de choses sur la préhistoire qu'on est obligé de spéculer. Et ça a donné lieu à de très grandes comédies. En revanche, la préhistoire. Il y a un film de Keaton qui s'appelle Les Trois Âges, qui est formidable.
Non, mais c'est très difficile de travailler sur cette période désertée en sources historiographiques.
Et d'ailleurs,
ce film, donc Jean-Jacques Hano l'a apporté à bout de bras, et il s'est entouré d'ailleurs de spécialistes éminents des âges farouches pour le mener à bien. Il avait recruté un linguiste, en l'occurrence Anthony Burgess, donc l'auteur d'Orange Mécanique. Il avait recruté aussi un spécialiste des comportements qui a analysé ça, qui a appris aux acteurs à adopter la gestuelle, les mimiques de ces hommes préhistoriques. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué. Le tournage était éprouvant, c'était une catastrophe.
Mais puis les dialogues sont compliqués, évidemment. Bon,
c'est sûr. Alors, ils n'ont pas eu beaucoup de problèmes de mémoire.
Si la préhistoire n'est pas une période très favorable, enfin si tant est qu'on puisse appeler la préhistoire une période, hein, d'ailleurs, parce que c'est tellement vaste dans le temps. En revanche, l'histoire antique, elle, a été vite et bien traitée au cinéma, ne serait-ce que parce que tout de suite, on va s'inspirer de Shakespeare, qui lui-même a montré la voie.
Alors c'est vrai, on s'inspire beaucoup de Shakespeare, je pense notamment à Jules César de Mankiewicz,
hein.
Mais il faut aussi savoir que bon nombre de scénaristes de l'époque, notamment aux États-Unis, en fait ont puisé aussi directement aux sources, les Plutarques, Appien, Salluste, c'est-à-dire qu'on va s'abreuver aux meilleurs textes de l'époque, et du coup on a des péplums de très grande qualité.
Mais ce Jules César, pour tout vous dire, moi je l'ai découvert grâce à une bande-annonce qui était diffusée dans un cinéma d'art et d'essai, un cinéma du quartier latin, et j'étais passé à côté pendant très longtemps. Ça n'est pas un film très connu, et pourtant c'est Marlon Brando, hein, tout de même, et c'est Mankiewicz, c'est 1953 le film.
Et c'est un film qui n'est pas fait pour les Français, parce que en dehors de Brando, la pièce exige curieusement une culture historique que les Français n'ont plus, alors que les Américains, peut-être
les Anglo-Saxons, d'une façon
mais
générale,
les Anglo-Saxons connaissent infiniment mieux l'Antiquité que nous. C'est probablement le fruit de Shakespeare, c'est probablement... Il existe un film, je vous dis ça en une seconde, il existe un film sur la guerre du Vietnam qui s'appelle en anglais Passant va dire à Sparte, Go to the Spartan, et qui est l'histoire des Thermopyles, qui est qui fait allusion à ce grand épisode de raconté par Thucydide, je crois.
Oui.
De là, et c'est un film populaire américain, et il s'appelle Spartiate, Va dire à Sparte, et en français on l'a passé et on l'a rebaptisé Le Merdier.
Mais ça n'est pas Eddie Mitchell et avec ça. En effet.
On l'a rebaptisé Le Merdier parce que les gens ça ne disait rien à personne en passant Va dire à Sparte.
Ah bon, bah si vous le dites, je vous en crois, Alain Rioux.
Oui, cela dit, le Mankiewicz, donc Jules César, en son temps, a quand même engrangé 700 000 entrées. Donc ce n'était pas non plus le vide sidéral.
Oui, oui. Mais ça n'a pas été le très grand succès qu'on aurait pu imaginer.
Oui, ça aurait pu être bien davantage. Mais bon, c'est vrai que le casting était...
Il faut dire qu'à la même époque, et c'est là que je voulais en venir, il y a énormément de films de série B, hein, de ces films un peu de cinéma de quartier, qui, eux, s'inspirent de l'Antiquité et aussi de la mythologie, bien entendu, avec les super-héros... très fort.
Non, alors que là, c'est vrai que Mankiewicz, c'est quand même trapu. On a aussi un casting de très très grande qualité, hein. James Mason, John J. Gould, donc Marlon Brando. Ça, c'était un
des
vrai...
scènes magnifiques.
Oui, la fameuse scène où il harangue le peuple romain de 12 minutes 30. Voilà, où lorsqu'il commence « Friends ». Romans, countrymen, lend me your ears. Bon, et ça, c'est vrai que c'est génial. Sur cette scène, il emporte tout. D'ailleurs, Mankiewicz disait que cette scène seule justifiait sa carrière.
Ah oui. Il y a deux très grands films sur cette période antique, évidemment, qui sont à l'esprit de tout le monde. Et évidemment, vous leur consacrez à chacun une belle double page. C'est le film de William Wyler, évidemment, le Ben-Hur de 1959, une espèce de film fleuve que tout le monde a vu je ne sais pas combien de fois. Et puis, bien sûr, le Cléopâtre, également de Mankiewicz. Alors là, on est 10 ans plus tard, en 63, avec Liz Taylor, dont le nez, s'il avait été différent, aurait changé la face du monde, Guillaume.
Ah oui, oui, et puis le film qui faillit couler la Fox, comme on disait à l'époque, film fleuve, film monument, mais en même temps aussi d'une grande rigueur, malgré tout, même s'il y a toujours certains emprunts et certains accommodements avec la réalité, il y a des scènes qui sont un petit peu embellies, mais malgré tout, l'esprit, voilà, c'est ça qui est important, c'est l'esprit de la période, le triangle entre César, Cléopâtre et puis Marc-Antoine est très très bien rendu.
En fait, on a l'impression...
C'est aussi une adaptation de Shakespeare, ce qu'on ne sait pas en France.
Oui, ça vient de l'Antoine et Cléopâtre de
Absolument.
Shakespeare au départ. On a l'impression que les Américains sont particulièrement férus et ils aiment l'Antiquité, en fait. Hein. Il y a dans le cinéma américain un grand nombre de titres. On serait bien en peine d'en trouver autant dans le cinéma français, ça c'est certain. On ne peut pas dire que l'Antiquité nous ait beaucoup inspirés, nous.
C'est peut-être parce que les Américains eux-mêmes manquent d'histoire, manquent de passé. Manque de préhistoire.
Mais donc ils vont chercher en quelque sorte la grande légende à ses origines.
À ses origines. Oui.
Alors dans un instant, nous allons parler du Moyen-Âge et nous allons aller faire un tour en Russie, puisque bien entendu l'un des grands cinéastes historiques qui a lui-même fait des films qui méritent ce qualificatif d'historique, c'est Eisenstein, avec Ivan le Terrible, avec Alexandre Nevski. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
De Prokofiev sur Europe 1, musique du film Alexandre Nevski d'Eisenstein, Franck.
Oui, alors on peut dire qu'il y avait un véritable accord entre Eisenstein, le cinéaste, et Prokofiev qui faisait les musiques de ces grands films historiques soviétiques. C'est vrai qu'on a l'impression que tout ça fait comme un opéra filmé en quelque sorte.
Complètement, mais c'est vraiment aussi un film de propagande qui a été
Alexandre
conçu.
Nevski, donc voilà. 38, on est juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Exactement, 1938, donc à l'automne 37, vu de Moscou, le péril vient d'Allemagne, donc il faut d'urgence mobiliser les énergies contre cet ennemi de l'Ouest, et donc du coup Staline ordonne un grand film qui va magnifier la Sainte-Russie. On va puiser dans l'histoire et donc repêcher ce héros Alexandre Nevski, prince de Novgorod. Et donc, finalement, on a un film quand même qui a la gloire du pays. Mais alors là où Eisenstein va malgré tout apporter sa patte et tout son talent, c'est qu'il va brouiller un petit peu les codes. Par exemple, les méchants dans ce film, donc qui sont matérialisés par les
chevaliers
teutoniques, oui, sont en blanc. Voilà. Et au contraire, les Russes, eux, sont en gris et noir, les cheveux hirsutes. Et donc là aussi, on brouille un petit peu les codes. C'est assez savoureux.
Évidemment, cette chevauchée des chevaliers teutoniques, c'est un des moments de cinéma les plus extraordinaires. Ça dure, ça n'en finit pas. C'est tout à fait incroyable.
Ah oui, mais vous savez, le bouquin de Guillaume Évin est vraiment très bien parce que c'est un livre d'histoire et c'est aussi un cinéphile. Et dans Alexandre Nevsky, on applique avant la lettre la grande règle d'Hitchcock, c'est que meilleurs seront les méchants, meilleur sera le film. Et ces chevaliers teutoniques sont en blanc et en plus, ils ont des casques baroques qui sont absolument fascinants. C'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. C'est une très grande création cinématographico-historique.
J'avais remarqué, alors vous allez dire, on est dans la très petite anecdote, mais ça va me permettre d'évoquer un des messages qui nous arrive par Internet. J'avais remarqué qu'il y avait énormément de mouches dans ce film et que les pauvres comédiens étaient constamment gênés par des mouches qui leur arrivent sur le visage, etc. Et je sais qu'un spécialiste a même prétendu qu'Eisenstein l'avait fait exprès pour donner un côté réaliste à son film. Ça, je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, Catherine nous dit que l'une des erreurs les plus fréquemment commises dans les films historiques, ce sont des erreurs de paysage et d'atmosphère. Et c'est vrai que les champs, notamment, sont généralement de très beaux champs, bien désherbés, etc. On ne tient pas compte de ce qu'avaient pu être les paysages d'autrefois.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, il faut aussi voir, encore une fois, le contexte dans lequel le film a été tourné. Il est toujours un petit peu dans l'urgence. Et puis, ce qui est intéressant, peut-être, c'est de parler de la sortie de ce film. Parce que lorsque le film sort, tout va bien. Sauf que, rapidement, est signé le pacte germano-soviétique. Eh oui. Et donc, du coup...
Les chevaliers teutoniques, là, c'est
voilà,
embêtant.
Et exactement. Il faut donc promptement le retirer du circuit parce qu'il faut quand même complaire à cet allié encombrant qui est devenu l'Allemagne. Et donc, Alexandre Nevsky disparaît. Mais... deux ans plus tard, évidemment en 1941, avec l'invasion de la Russie par l'Allemagne nazie, donc Eisenstein a eu raison avant l'heure.
Et il va tourner pendant cette fameuse grande guerre patriotique, il va tourner évidemment son chef-d'œuvre, Ivan le Terrible, avec Tcherkassov, cette silhouette découpée comme ça à la serpe absolument extraordinaire. On est dans une évocation historique d'une force là, tout à fait quasiment indépassable.
D'autant qu'il y a la couleur, d'autant
oui, il y a une scène en couleur.
Et ça lui a coûté très cher à monsieur
Eisenstein.
La perfection de son film a rendu jaloux Staline, qui s'est dit « voilà que l'on glorifie un autre monarque que moi ». Et il a été tout simplement dégommé à partir de ce moment-là.
Mais c'est tout le rapport entre l'histoire passée et l'histoire présente. Parce que très souvent, ces films historiques, évidemment, ont des répercussions et des incidences sur l'histoire présente. Parmi les très grands personnages médiévaux qui ont été mis en avant par le cinéma, celle qui l'a été le plus, évidemment, je crois qu'on peut dire que c'est Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc, bien sûr, tout à fait. Alors, j'ai retenu deux grands films, celui de 1928 de Theodor Karl Theodor Dreyer et puis celui de Fleming en 48, donc là cette fois très hollywoodien. Et donc ce qui m'a semblé assez intéressant, c'était de montrer le contraste entre ces deux visions en fait du même personnage, de la légende de Jeanne d'Arc, avec d'un côté on a un film en noir et blanc muet, avec une abondance de gros plans d'un visage tourmenté, les lèvres gercées, vraiment une vision sulpicienne en fait. Et puis de l'autre, dans le film de Fleming, son dernier, alors là c'est Ingrid Bergman avec sa superbe armure en aluminium, parce qu'elle était trop lourde sinon, et donc elle s'était évanouie, donc on lui avait aménagé une armure sur mesure, mais avec une reconstitution très très soignée de Rouen, les habits sont chatoyants, enfin bref, on a toute l'armada hollywoodienne pour défendre ce film. Mais malgré tout, les deux sont quand même d'un intérêt historique très très conséquent, puisque ils se sont abreuvés aussi à des sources véritables. Par exemple, le film de Fleming va s'adresser en fait à, à un jésuite qui a écrit plusieurs ouvrages sur Jeanne d'Arc, donc il va veiller un petit peu à la véracité des faits. Et puis le film de Dreyer, lui, avait quand même compulsé les fameuses minutes des procès.
Bien sûr, voilà. Oui.
Alors bien sûr,
les deux procès, le procès en condamnation et celui en réhabilitation.
Révision.
Alors en fait, vous citez La Passion Béatrice de Bertrand Tavernier. Pour moi, c'est un modèle justement de. Il y a eu un très gros travail sur la reconstitution de ce que pouvait être la société médiévale. Je me rappelle également une très belle conférence qu'avait donnée Jacques Le Goff au moment de la sortie du Nom de la Rose, hein, de Jean-Jacques Haneau, puisqu'il en avait été le conseiller historique. Il avait raconté comment on avait notamment peint les cochons en noir pour qu'ils aient l'air plus médiévaux. Ça m'avait frappé. Mais ce sont des films qui sont quasi archéologiques. Et puisqu'il faut que nous avancions, j'aimerais qu'on évoque, puisqu'on parle d'archéologie, j'aimerais qu'on évoque peut-être la plus belle tentative de cinéma historique, c'est La prise du pouvoir par Louis XIV de Rossellini. Là, on peut dire que tout a été étudié pour être au plus près, pour coller le plus possible à l'époque, aux événements, aux personnages, aux décors, enfin à tout ce qui peut faire une véracité historique, Alain Rioux.
Oui, je profite de l'occasion d'ailleurs pour faire une petite allusion contemporaine. Philippe Erlanger,
oui.
Grand historien qui a fondé le Festival de Cannes. Absolument, c'est le fondateur de Cannes. C'est aujourd'hui ou jamais qu'il fallait le signaler.
Mais bien sûr, vous savez que c'est un peu notre idole. En tout cas, c'est un de nos saints patrons dans cette émission, Philippe Erlanger.
Oh, mais vous savez, Erlanger, là je le dis à tous les auditeurs, si vous voulez lire des histoires de l'histoire qui est à la fois de l'histoire et des histoires avec la garantie de la véracité, quelque chose de passionnant, lisez les Erlanger, lisez le Louis XIII d'Erlanger, c'est un absolu chef-d'œuvre.
Oui, oui, il y a beaucoup de très beaux, beaux livres. Et évidemment, moi, celui que j'ai toujours tendance à recommander, c'est celui qui évoque la question de Jeanne d'Arc, c'est le Charles VII, VII extraordinaire de Philippe Erlanger. Dans un instant, nous en venons à des périodes beaucoup plus récentes.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
D'Endel sur Europe 1 Musique, du film de Stanley Kubrick sorti en 75, Barry Lyndon.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Julia, mais je ne peux pas entendre cette sarabande d'Endel sans être parcouru de frissons. C'est vraiment une musique qui a peut-être fait la célébrité et la réussite de ce grand film de Kubrick. Un film qui est une sorte d'expérience totale, puisque les éclairages, notamment, sont des éclairages naturels.
Oui, alors la fameuse scène dite de la bougie, c'est-à-dire qu'en fait, Kubrick est très très fort, parce qu'il obtient un maximum de naturel avec un maximum d'artifice. Il s'était même procuré une lentille spéciale auprès de la NASA, donc justement pour recréer cette lumière si particulière de l'époque. Mais là où Kubrick a été très 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 très, très malin, c'est que bien sûr, il est parti de l'ancrage historique qui est la guerre de 7 ans, hein, qui a déchiré l'Europe durant ce siècle. Mais ce qui l'a intéressé, lui, c'était de montrer la manière dont ce siècle dit des Lumières, se regardait lui-même. Et donc, finalement, sous le vernis, sous les apparences, en fait, c'était très dégradé, c'était malsain, c'était sombre, c'était glauque.
Oui.
Et il montre justement
cette décadence. C'était glauque mais prenant, c'est ça qui est très fort.
Notamment la scène où on voit la leçon de piano, où il se déchire à main nue, c'est d'une violence extrême. Et pourtant, ils ont tous des perruques qui sont poudrées et raffinées.
Alors dans ce catalogue, j'allais dire, dans ce bel album sur les grands films historiques, Guillaume Évin, vous consacrez quatre chapitres à Stanley Kubrick. Il y en a également quatre pour
Visconti,
bien entendu, auquel nous allons venir. Et puis quatre pour Bertrand Tavernier, qui, ne l'oublions pas, est en France notre grand cinéaste historique, en quelque sorte. Hein, c'est celui qui aura peut-être fait les films les plus réussis, Alain Rioux.
Ah, vous avez mille fois raison. On n'est pas prophète en son pays, donc il est très sous-estimé. Le premier film historique qu'il a fait, c'est d'ailleurs, je crois, son second film. C'est déjà un film historique qui s'appelle Que la fête commence, qui est éblouissant
d'irrespect,
de tout ce qu'on veut. C'est très lointainement inspiré d'un, d'un roman de Dumas. Mais c'est historiquement très juste. Et alors, Noiret, Rochefort sont divins.
Marielle
sont
aussi.
Marielle,
on a un casting de folie.
Poncalec sont absolument divins. Et Jean Orange, il faut le citer, parce que Jean Orange est un très très grand cinéaste. Jean Orange a écrit avec Bertrand un dialogue éblouissant.
Chez Tavernier, il y a également une connaissance intime de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est fabuleux, avec Capitaine Connor, avec La vie et rien d'autre. Alors là, quel film éblouissant. On va venir à la Première Guerre mondiale dans un instant. Avant cela, j'aimerais qu'on évoque évidemment celui qui aura fait vibrer le 19e siècle au grand écran. C'est évidemment Luchino Visconti. On pense à Senso, par exemple. Fabuleux.
Senso, Le Guépard, bien sûr. Oui. Palme d'Or à Cannes en 63, c'est vrai. Que on a beaucoup dit que Visconti était peut-être finalement le cinéaste du Risorgimento et de l'unité italienne. Mais c'est vrai que lui aussi, par exemple, a admirablement su finalement mêler l'intime et le monumental. Parce que c'est là la force d'un film historique, c'est que il va nous montrer le Risorgimento et finalement tout le mouvement qui va conduire à l'unité italienne et finalement l'époque où tout bascule.
Et en même temps,
à travers le regard, justement, à travers le regard soit de sa comtesse Livia Serpieri, jouée par Lyda Valli, ou bien à travers le regard nostalgique, mélancolique de Lancaster, prince de Salina. Et donc, c'est là la force de son cinéma, c'est qu'avec ses figures très 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 forte, eh bien il fait passer tout un mouvement d'idées.
C'est ce que sait si bien faire également Ettore Scola dans la Nuit de Varennes, hein. C'est-à-dire qu'on suit à la fois et simultanément l'évolution de la grande histoire et les soubresauts de la petite. Ça c'est toujours bien sûr un tour de force en termes de scénario, mais aussi de réalisation, parce qu'il faut constamment aller de l'un à l'autre sans qu'on voit les coutures. C'est assez extraordinaire. L'un des grands chefs-d'œuvre, mais je dis bien l'un des grands chefs-d'œuvre de Luchino Visconti, puisque moi j'aime tout chez Visconti, mais c'est évidemment le Ludwig avec Helmut Berger dans le rôle de Louis II, plus vrai que nature. Là, on a quasiment l'impression d'un reportage. C'est assez extraordinaire.
Ah oui, saisissant. La reconstitution, évidemment, avec Visconti toujours très méticuleuse. Les vêtements somptueux, les décors. C'est vrai que c'est assez éblouissant.
On écoute d'ailleurs, si vous voulez bien, la bande originale de ce chef-d'œuvre de Visconti.
Tannhauser de Wagner qui sert de musique de film à Ludwig ou le crépuscule des dieux de Visconti.
Évidemment, Wagner dont on célèbre en ce moment même le bicentenaire de la naissance. Nous lui avons consacré récemment
une très belle émission.
Une émission, évidemment, avec Alain Duhaut. Alors, Visconti avait, je crois, Alain Rioux, un avantage sur un grand nombre d'autres cinéastes, c'est qu'il tutoyait l'histoire, si je puis dire. Il était lui-même un grand aristocrate, il avait connu tout ça, si je puis dire. Et donc, il était capable de mettre en scène les grandes tenues, les grands décors. Il savait comment se comportent les personnages de l'histoire.
Oui, sa famille avait eu le duché de Milan avant les Sforza et après les Sforza. Enfin, il aurait pu être un des rois d'Italie après le Risorgimento. Mais donc, Visconti était un homme... Son cinéma vieillit extraordinairement bien.
Très.
Moi, quand j'étais jeune, j'avais tendance à trouver ça bêtement un peu pompeux et pas du tout. Et j'ai compris récemment pourquoi ça vieillit tellement bien. Vous savez, les scénaristes, ça compte quand
et
même
oui,
dans
voilà,
l'histoire.
Bien sûr, hein.
Il ne suffit pas de parler de l'histoire. Elle-même est un grand scénariste, mais ne sait pas écrire ses histoires. Et Visconti avait choisi pour faire Ludwig. Le scénario a été écrit avec lui et par Suso Cecchi d'Amico, qui a écrit également Le Pigeon et des quantités de comédies italiennes. Vous savez, la force du cinéma italien est aussi dans la comédie. Et pour qu'un film historique soit beau, il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il soit naturel. Et grâce à Suso Cecchi d'Amico, tous ces personnages vivent, existent aussi bien que les petits voyous. C'est formidable.
Visconti est à l'aise dans le 19e, il est aussi à l'aise dans le début du 20e avec un film comme Mort à Venise qui est peut-être à la quintessence, l'esprit même de la Belle Époque. Dans un instant, nous en venons justement au cinéma concernant les grands épisodes historiques du 20e siècle et notamment les deux guerres mondiales.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et vous êtes très nombreux à réagir aujourd'hui sur les réseaux sociaux à notre émission consacrée aux grands films historiques.
Oui, vraiment très nombreux. Passionnés par l'histoire des Habsbourg, j'attends désespérément un vrai film sur l'impératrice Elisabeth à la hauteur du Crépuscule des dieux de Visconti sur Louis II, nous dit Brigitte. Michel nous parle, alors ça c'est intéressant parce qu'on est passé à pieds joints, on a sauté à pieds joints sur l'épopée napoléonienne, mais évidemment Napoléon a été un des grands héros du cinéma. On se rappelle le Napoléon d'Abel Gance, mais Abel Gance, beaucoup plus tard, a également tourner un Austerlitz avec Pierre Mondy qui avait incarné Napoléon pour Sacha Guitry justement. Et Frédéric nous parle des duellistes de Ridley Scott, légendaire nous dit-il. C'est vrai que ça se passe là encore pendant cette grande épopée des guerres de la République et de l'Empire, et c'est un film effectivement tout à fait magnifique. Catherine nous dit que côté cinéma, elle aurait un faible pour le récent Discours d'un roi. On avait parlé de ce film, on lui avait même consacré une émission entière, et c'est vrai que c'était un modèle pour ce qui est de l'histoire très récente. Alors nous en venons justement à cette histoire du XXe siècle. Et alors, c'est très subjectif, hein, mais j'ai envie de dire que pour moi, le grand film, c'est celui de Renoir, c'est la grande illusion, Guillaume Évin.
Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant que finalement l'un des plus grands films de guerre soit un hymne pacifiste.
À la paix, oui, c'est ça.
Il faut voir aussi le contexte. Là encore, le film sort en 1937, donc il se veut un plaidoyer contre la montée des périls, contre la guerre. Finalement, qu'est-ce que c'est la grande illusion ? C'est l'illusion que ce sera la derdédère, l'illusion que tout s'efface. Et pourtant, les protagonistes vont nous montrer qu'on se rend compte que les différences de classe perdurent, puisqu'on voit que la connivence implicite qui lie von Rothenstein et puis le colonel de Boieldieu, finalement, est presque plus forte que les soldats français prisonniers dans la forteresse. Et ce film va connaître un étrange destin, puisque après la guerre, il va être malmené, il va être même pendant la guerre, il va être interdit, puis il va être coupé. Impensable en effet ensuite de voir une Allemande sympathique et qui puisse y avoir une amorce d'une idylle avec un Français. Donc c'est ça aussi qui est si fabuleux avec cette œuvre qui a traversé le siècle. Et qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands films français de tous les temps, peut-être. Hein. Au même titre, Alain Rioux me le démentira pas, mais peut-être qu'au même titre que Les Enfants du Paradis, ou bien La Règle du Jeu,
oui,
du même Renoir.
Tout à fait, peut-être même plus. Puisque je pense que ce film contient la scène la plus émouvante de tout le cinéma mondial, qui est une scène.
Rien que ça.
Non, c'est vrai. C'est une scène un peu patriotique.
En plus, oui.
C'est lorsque les Anglais, les prisonniers anglais, qui s'habillent un certain jour en femmes pour donner un spectacle, parce que le manque de femmes est terrible, donc ils s'habillent en femmes et ils apprennent à ce moment-là la victoire de Douaumont, c'est-à-dire que les Français, les Alliés ont repris Verdun, Douaumont. Aux Allemands, et à ce moment-là, ils enlèvent leur perruque. Ils sont en train de faire une farce incroyable. Ils enlèvent leur perruque et avec une gravité exceptionnelle, ils se mettent à chanter la Marseillaise. C'est d'une beauté.
C'est vrai que ça laisse sans voix. Puisque vous avez évoqué à l'instant Les Enfants du Paradis, autre film qui se passe dans le passé, mais à défaut d'être tout à fait historique, je voulais signaler la parution aux éditions Soteca de l'ouvrage de David Chantran, Marcel Carnet, Le môme du cinéma français. Alors, parmi les grands films tout à fait extraordinaires, il y a, alors pour moi ça c'est un vrai mystère, c'est Le Dictateur de Charlie Chaplin, qui là est de l'histoire immédiate. C'est-à-dire que de l'autre côté de l'Atlantique, au moment même où Hitler est en train de malmener l'Europe, vous avez ce Charlie Chaplin qui en présente une caricature plus vraie que nature. C'est tout à fait étonnant ça, Alain Rioux.
Oui, c'est fascinant, d'autant que ça annonce les camps auxquels la plupart des gens de l'époque, même ceux qui étaient anti-allemands, ne croyaient pas. Il y a une prescience étonnante. Et alors, ce qui est très très fort, évidemment, c'est de faire rire avec le drame. Benigni l'a fait quelques décennies plus tard, mais Chaplin, il y a une stylisation incroyable et il y a des gags formidables dans ce film. En même temps, il y a des choses splendides lorsque Hitler jongle avec son monde, c'est-à-dire il a fait le Chaplin qui joue, c'est pas Hitler, mais enfin on le reconnaît, avec sa petite moustache, et Chaplin joue un dictateur épouvantable. Et il a gonflé une espèce de grosse baudruche dont il a fait le monde. Et on voit
un globe terrestre, oui.
Un globe terrestre.
Il jongle avec.
Je veux dire, et il jongle avec, y compris avec ses, il lui donne un coup de fesse, il lui donne, il le fait remonter.
Tout à fait incroyable.
On échappe totalement. On est dans un rêve.
Ouais.
C'est un des films les plus fascinants.
Mais le miracle de Chaplin dans ce film-là, c'est qu'il a su être terrifiant dans le grotesque.
Voilà.
Et ça, c'est très très fort parce que on ne verse jamais dans la caricature et en même temps, c'est toujours très très subtil. Et d'ailleurs, il avait dit aussi que c'était beaucoup plus profond qu'on pourrait le croire, c'est qu'il avait fait un film sur le dictateur parce qu'il haïssait les dictateurs.
Alors vous consacrez deux pages à Nuit et brouillard d'Alain René, le très grand film de 1956, mais c'est plutôt un documentaire, ça, Guillaume Évin. Donc pour parler de cet aspect-là, je préférerais par exemple que nous évoquions Le pianiste de Polanski, qui est un film beaucoup plus récent, c'est 2004 Le pianiste.
Non, de 2002 même, puisque d'ailleurs Polanski a obtenu la Palme d'Or, la seule à ce jour. C'est un peu le film de sa vie pour Polanski. Ça faisait longtemps qu'il le portait. Il a simplement, alors, il a enfin trouvé le matériau qui lui manquait, à savoir ce texte de Spielmann, ce pianiste de l'époque. Et puis, il a transposé l'action, puisque lui-même a été un enfant déporté dans le ghetto de Cracovie. Et là, donc, l'action est transposée à Varsovie. Mais finalement, c'est aussi les propres souvenirs de Polanski. Tout se mêle. Alors, il y a une admirable reconstitution. Adrien Brody donne peut-être le rôle de sa vie aussi dans ce film. Alors, ça commence par des images d'archives et puis brutalement, hop, on enchaîne avec cette explosion au moment où il tient une audition. Bon, pour moi, c'est un des très grands films sur la période.
Alors, j'aurais bien aimé qu'on entende quelques notes de la bande originale du pianiste, mais honnêtement, nous n'avons plus le temps parce que nous arrivons vraiment à la fin de l'émission. Alors, pour essayer de compenser cette frustration, je ne peux que vous renvoyer à un très beau coffret, enfin, c'est plutôt 6 coffrets, sur les plus belles musiques de films. C'est un partenariat européen, Première et la FNAC, et on trouve là-dedans toutes sortes de musiques de films qui nous rappellent beaucoup de souvenirs. En un mot, et je compte sur vous, Alain Rioux et Guillaume Évin, quel serait votre film historique préféré, Alain Rioux?
Eh bien, depuis que je l'ai revu, c'est Le Capitaine Conan.
Ah oui, c'est vrai que c'est magnifique.
Et moi, j'ai un faible, je l'avoue, pour un film assez méconnu, c'est de Frank Borzeghi, c'est La tempête qui tue, The Mental Storm, parce qu'en fait, ça évoque admirablement, finalement, la manière dont l'Allemagne va basculer dans le nazisme.
Ah oui, c'était également, effectivement, un film tout à fait extraordinaire. L'histoire fait son cinéma en 100 films aux éditions de La Martinière. C'est un livre de Guillaume Évin. Merci beaucoup, Alain Rioux. Vous êtes inépuisable sur le sujet, alors on fera d'autres émissions, bien entendu.